Laudetur Jesus Christus.
L'inquiétude du pape pour les violences en cours en Syrie dans un texte diffusé hier pour l'Angélus, le souverain pontife, appelé comme nombre de nations à la fin des hostilités ayant fait 1000 morts depuis jeudi. Témoignage direct dans le journal d'une religieuse établie à Banias, l'un des épicentres des affrontements. Plus d'une semaine de blocage dans l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, un nouveau palier franchi ce lundi. Israël coupe l'électricité dans l'enclave, les pénuries alimentaires risquent à nouveau de sévir. Nous entendrons l'alerte de la représentante de l'UNRWA en Europe. En représailles aux droits de douane américains, la Chine riposte ce lundi, ciblant les produits agricoles américains. Tandis que le Mexique célèbre une pause dans la guerre commerciale avec les États-Unis, nous irons sur place. 10 jours après l'appel historique du fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan à cesser la lutte armée, à la question kurde n'en demeure pas moins complexe, le devenir du PKK restant flou. Analyse à suivre.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Après son réveil d'une nouvelle nuit tranquille, le pape a repris ses thérapies, y compris la respiratoire et motrice. Après la ventilation mécanique non invasive de la nuit, il est passé à l'oxygénation à haut débit avec des canules nasales. Ce matin encore, depuis l'hôpital, le pape assis sur son fauteuil a suivi en vidéo les méditations des exercices spirituels de la curie qui ont débuté hier après-midi dans la salle Paul VI. Il a ainsi pu se joindre spirituellement aux participants. À partir de cet après-midi, à 17h, les exercices spirituels qui portent sur l'espérance de la vie éternelle pourront être suivis en direct sur Vatican News. La prière du chapelet pour la santé du pape suivra vers 18h, toujours dans la salle Paul VI, ce doit être le cas jusqu'à jeudi. Les nouvelles modalités du chapelet récitées à partir de vendredi seront communiquées ultérieurement, tandis que la situation médicale semble stable dans un contexte complexe. Le pronostic reste prudemment réservé. Un bulletin médical est attendu ce soir. Il n'avait pas été publié hier, compte tenu justement de cette stabilité clinique. Le pape suit toutefois depuis sa chambre d'hôpital tous les développements internationaux, comme la situation inquiétante en Syrie. Il exhortait hier dans un texte à la fin des violences ethniques et religieuses qui ont fait près de 1000 morts dans le pays. À Banias, sur le littoral, des centaines de personnes ont été tuées par des miliciens djihadistes ce week-end. Sœur Adelina, responsable d'une garderie de 85 enfants dans la ville, témoignent de l'horreur que les habitants ont vécue.
Les chrétiens, ils ont pris la fuite tout de suite. Nous sommes seuls ici dans au couvent. Nous avons une garderie chez nous. Nous avons des enfants décédés. Oui, c'est un peu dur. Nous n'avons pas ni de matelas, ni de couverts. Rien. Le père du prêtre orthodoxe, il a ouvert la porte seulement. Ils ont donné des coups de fusil. Il était décédé. C'est terminé les bombardements et la guerre, mais il y a la peur parce qu'on sait rien, on sait qu'est-ce qu'il se passe. Il y a les morts dans les rues, qui sont décédés, ils sont encore dans les rues. On peut pas, on ne laisse pas personne rentrer dans leur maison pour enlever les décédés.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel et face à ces violences, déclaration commune des patriarches d'Antioche, orthodoxes, syriaques et melkites, ils condamnent des massacres contre des innocents dans cette déclaration signée samedi à Damas. Et le ministère syrien de la Défense vient d'annoncer, je cite, avec succès, la fin de l'opération militaire dans l'ouest du pays, sur ce littoral où des combats faisaient rage. L'Iran rejette toute implication dans les violences entre le nouveau pouvoir et les minorités. La République islamique d'Iran hausse le ton en revanche face aux États-Unis, refuse de négocier sous la pression et l'intimidation sur son programme nucléaire. L'administration américaine confirmait hier ne pas renouveler sa dérogation aux sanctions permettant à l'Irak d'acheter de l'électricité à l'Iran, au grand dam de Téhéran. Au Proche-Orient, jour de nouveau pour parler de trêve à Doha où une délégation israélienne est attendue. Le Hamas affirme que l'État hébreu continue de de revenir sur l'accord. Le gouvernement israélien défie aussi les appels mondiaux à mettre fin à son blocus de la bande de Gaza qui dure depuis plus d'une semaine, entraînant un nouvel effondrement de la situation humanitaire. L'électricité est coupée dans l'enclave à compter d'aujourd'hui et le risque de pénurie alimentaire est pesant, pointe aussi notamment à l'Allemagne. La directrice Europe de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Marta Lorenzo, nous décrit cette cascade de conséquences humanitaires aux destructions et restrictions.
Right now, everything is blocked in terms of no trucks entering.
Pour l'instant, tout est fermé et aucun camion ne peut entrer. Mais bien sûr, notre travail se poursuit. Tout ce que nous avons de disponible, nous le distribuons. Les besoins sont immenses. Les gens rentrent chez eux dans leurs maisons, mais ce ne sont pas des maisons qu'ils retrouvent. Ce sont des montagnes de décombres. Mes collègues ont décrit la situation comme étant totalement inhumaine parce que vous retournez chez vous, mais vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Nous avons donc par exemple ouvert davantage d'abris collectifs dans nos installations au nord de Gaza, mais ils sont surpeuplés. Nous avons 3 ou 4 familles qui partagent une pièce sans eau potable et elle doit être distribuée par des camions. La situation reste donc extrêmement difficile, mais il y a tout de même un peu d'espoir, car nous avons pu ramener des enfants dans des structures scolaires. Nous avons maintenant des milliers d'enfants en classe, en particulier des jeunes qui apprennent à lire et à écrire. Cela redonne de l'espoir aux gens quand on est capable de faire ce genre de choses.
Des propos recueillis par Stefano Leschinski. Le bilan des victimes des inondations meurtrières en Argentine ne cesse d'augmenter. Au moins 16 morts à ce jour, des dizaines de disparus. Le pape a été informé de la situation. Il exprime sa proximité aux personnes touchées, informe ce midi la salle de presse du Saint-Siège. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays natal du pape François. En première ligne face aux menaces douanières de Donald Trump, le Mexique serre les rangs autour de sa présidente. Un grand rassemblement avait lieu ce dimanche dans la capitale, dont Claudia Sheinbaum fut maire avant de gagner la présidence. Elle s'est déclarée optimiste quant à l'abandon définitif de cette menace tarifaire. Mexico, Diego Calmar.
Nous ne sommes pas plus ni moins que les États-Unis. Hier, face à près de 100 000 personnes rassemblées sur le Zócalo, la place centrale de Mexico, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a tenu un grand meeting où elle a voulu célébrer la pause dans la guerre commerciale qui oppose le Mexique aux États-Unis. Cet événement était initialement prévu pour annoncer des mesures face aux menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers sur les produits mexicains. Mais suite à la levée de ces tarifs douaniers, ce meeting s'est mué quasiment en fête nationale. Un rassemblement patriotique et populaire autour de la présidente, crédité de 80% de popularité. Sheinbaum a rappelé l'importance des relations entre les deux pays. Avec les États-Unis et leur gouvernement a prévalu le dialogue et le respect, a-t-elle pointé, se félicitant de la levée des frais de douane. C'était aussi une façon pour elle de rassurer son voisin du Nord, puisque les menaces de Trump visaient surtout à ce que le Mexique durcisse sa politique migratoire et de lutte contre le trafic de drogue, afin d'empêcher qu'il n'entre aux États-Unis. Pour le moment, ces frais de douane sont reportés jusqu'au 2 avril. À Mexico, Diego Calmar, pour Radio Vatican.
Le PKK a pressé de déposer les armes 10 jours après l'appel historique de son fondateur à cesser la lutte armée. L'organisation est encore dans le flou et cette fin prochaine ne liquide pas pour autant le devenir de la question kurde, nous explique Samim Akkönül, directeur du département d'études turques à Strasbourg.
Si on arrive à la fin, une déclaration en bonne et due forme de la fin de la lutte armée et voire la dissolution du PKK, c'est une victoire, c'est un résultat très important. Ceci étant dit, il y a approximativement 15 millions d'individus en Turquie qui se considèrent comme kurdes et politiquement parlant et sociologiquement parlant, la question kurde ne va pas disparaître du jour au lendemain. Notamment, là, il faut le dire, c'est que Abdullah Öcalan, dans sa déclaration, n'a pas exigé un certain nombre de mesures pour l'amélioration de la condition des Kurdes en Turquie. Par exemple, la question qui a été demandée depuis des décennies de l'enseignement en kurde, la possibilité d'avoir un enseignement en kurde n'a pas été abordée. La décentralisation du régime et donc l'augmentation des pouvoirs locaux et régionaux n'a pas été abordée. Et donc de ce point de vue, je pense que la fin de la lutte armée ne signifie pas pour autant la fin de la lutte politique. Et donc ce combat, si j'ose dire, pour des droits égaux, pour l'égalité, pour la citoyenneté complète, va certainement durer et continuer.
Samim Akkönül, directeur du département d'études turques de l'Université de Strasbourg, était interrogé par Olivier Bonnel. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. Nous espérons avec intérêt. L'actualité du Pape et du Monde revient dès ce soir à 18h. Elle vous sera présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.